Nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, les versets 1 à 16. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akaz, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouvait en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Bon dimanche. Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras un pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un réel plaisir d'être là, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai appris, au détour de je ne sais quoi, mais surtout de mon agenda Google qui le note automatiquement, qu'aujourd'hui était un jour spécial. Il semblerait qu'aujourd'hui, on a inventé qu'aujourd'hui c'était la fête des pères. Et comme c'est la fête des pères, j'ai donc décidé de prendre une femme, une mère, la veuve de Sarepta, pour nous enseigner ce matin, parce que voilà cette position de veuve de tribulation, je rigole, correspond. Ouais. Non, aussi et surtout que dans deux semaines, Nous avons préparé un culte avec le témoignage de Corinne Chollet, au sujet des crises de foi. Et ce texte me permet d'introduire Élie, parce que je vais prêcher dans 2 semaines sur Élie, sur la crise qu'il a eue. Et la veuve de Sarepta me donne l'opportunité de creuser ce texte. Le cycle d'Élie, donc qui commence là au chapitre 17 et qui va se développer sur plusieurs chapitres du livre des Rois, on parle du cycle d'Élie, il vise à démontrer la suprématie de Dieu sur Baal. Et Baal, c'est en fait un dieu cananéen qui est le dieu de l'orage. Et donc, tout au long de ce cycle, Élie va montrer que c'est Dieu qui est vraiment Dieu. Et on va le voir notamment sur cette pluie, cette sécheresse qui est annoncée par Élie, démontre que ce n'est pas Baal, le dieu de l'orage, qui commande la pluie, mais c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Sur le mont Carmel, en attendant que la foudre frappe l'autel pour y mettre le feu, là de nouveau, c'est Dieu Tout-Puissant qui commande la foudre, et non pas ce soi-disant Dieu de l'orage. Et donc, le ministère d'Élie, que j'aime beaucoup parce que il parle peu, Élie. C'est un homme d'action. Il dit, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole, point, et il arrête de pleuvoir. Plus tard, il dira, bon, 3 ans et demi après, nous apprend Jésus, il dit, go, et à nouveau, les cieux se mettent à offrir leur eau. Élie agit. Il agit et le contexte de son ministère, c'est celui d'Akab. Akab, le texte nous dit qu'il est le fils d'Omri et qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Et notamment qu'il a pris pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Et donc, Élie se lève comme un jugement sur ce roi corrompu et surtout idolâtre, pour montrer à quel point Dieu est tout-puissant. Et au milieu de ce récit, qui prend place en plein milieu de cette sécheresse, nous voilà qu'il est évoqué la veuve de Sarepta. Alors on connaît très peu de choses sur cette veuve. On ne connaît même pas son prénom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est veuve, qu'elle a un enfant, qu'elle est en train de ramasser du bois et qu'il lui reste un seul repas. On sait qu'elle habite Sarepta, puis si vous ne voyez pas où c'est entre Tyr et Sidon. Je lisais, c'est à 22 km au nord de Tyr et à 13 km au sud de Sidon. Puis je crois qu'il y a un village actuellement qui s'appelle Sarepan ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc elle habite plus ou moins la région d'où vient la reine Jézabel. Et donc, ce que je vous propose, c'est de nous poser la question, quel sens donner, ou plutôt comment cette veuve à qui il ne reste rien, comment est-ce qu'elle peut nous enseigner sur la foi? Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Et c'est intéressant de voir le sens que donnent d'autres prédicateurs. J'aime bien nos amis d'outre-Manche, enfin d'outre-Atlantique. Alors, en passant, tous ceux qui disent qu'il suffit d'obéir et puis tout vient à gogo, il y a notamment une interprétation qui dit « lorsque le prophète parle, il faut écouter », sous-entendu « lorsque l'homme de Dieu », sous-entendu « lorsque le pasteur vous dit quelque chose, c'est très important de l'écouter ». Je dis, il n'est pas gonflé quand même, le prédicateur qui dit ça. Même si c'est vrai, mais il n'est quand même pas gonflé. Non, quel sens donner à cette histoire? Et si nous connaissons peu de choses sur elle, si nous n'en savons pas grand-chose, nous voyons que la grâce par laquelle Dieu l'a choisi, cette improbabilité que Dieu choisisse une veuve pour nourrir son prophète, cette veuve est un exemple de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il choisit une veuve à qui il reste un seul repas pour nourrir son serviteur ? Dieu choisit quelqu'un qui n'a rien pour nourrir et donc mettre en œuvre son plan. Il aurait pu choisir un prince, un roi, qui bien sûr, dans ce temps de pénurie, devait sûrement avoir quelque chose à manger. Il aurait pu prendre un riche, qui avait de grandes réserves. Il aurait pu prendre un marchand qui faisait passer quelques petites marchandises en contrebande et qui avait une petite cave pour nourrir un prophète, non. Dieu choisit une veuve qui n'a rien pour nourrir son prophète. Le choix est totalement improbable. Il est totalement improbable, mais du coup, il met en avant cette grâce par laquelle Dieu choisit les petites choses, les choses faibles, les choses qu'on ne distingue pas pour confondre les forts. Et ce choix est improbable, mais il choque. Il choque aussi un peu. Et c'est bien ça que, lorsque Jésus en fait référence, lorsqu'il dit dans Luc 4, juste après avoir été rejeté à Nazareth, plutôt que son ministère est remis en question à Nazareth, il leur répond, « Je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé, 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. » Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Et donc Jésus prend l'image, la figure, le récit de cette veuve pour montrer qu'il y avait plein de veuves qui avaient faim. Et non seulement il y avait plein de veuves qui avaient faim, mais il y avait plein de veuves en Israël qui avaient faim. Et pourtant, Dieu a choisi de faire grâce à une veuve étrangère. Et des centaines d'années, c'est toujours choquant, parce que dans l'évangile de Luc, c'est la première fois que les auditeurs veulent tuer Jésus. Jésus leur dit, voyez, Dieu fait grâce à une étrangère, et pour la première fois, ils veulent s'en prendre à lui. Parce que ce message est fort, qu'Élie parte dans un territoire étranger, c'est aussi une image de cette parole de Dieu, de cette bénédiction, de cette grâce qui est donnée ailleurs à cause de l'infidélité de son peuple. Et donc, que Dieu choisisse cette veuve nous démontre la grâce de Dieu. Il nous démontre que Dieu peut faire grâce à qui il veut, mais il montre aussi que donner, que participer au plan de Dieu n'est pas qu'une question de ressources. En choisissant cette veuve pour nourrir son prophète, Dieu démontre que pour le servir, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Et si une femme veuve étrangère à qui il reste un seul repas peut participer à l'œuvre de Dieu, alors nous aussi, nous pouvons participer à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons tous participer à l'œuvre de Dieu. Et comme j'ai dit, si ce choix est quand même un peu choquant, ou il y a quand même quelque chose de choquant dans cette histoire, je trouve, c'est dans ce dialogue lorsque Élie demande, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main, et que la veuve répond, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai pour cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie, qui est envoyé par Dieu, demande à cette veuve de lui préparer du pain. Elle lui répond qu'il ne lui reste plus qu'un repas pour elle et son fils. Et pourtant, Élie lui demande quand même de le nourrir en premier. Comment Dieu, comment est-ce qu'un prophète, comment un serviteur de Dieu peut-il demander à une veuve son dernier repas ? Est-ce que Dieu n'est pas en train de demander trop ? Comment demander à quelqu'un qui n'a rien, le rien qui lui reste ? Et comme nous le verrons ensemble, si Dieu demande à cette femme à qui il ne reste rien de quand même lui donner en premier, c'est parce qu'il est tout aussi important de donner que de manger. Donner est crucial pour notre vie de foi, et je vais aller même plus loin, donner fait partie de notre nature. Et je trouve intéressant de noter que les veuves sont plusieurs fois employées dans la Bible pour être des exemples de générosité. Et notamment Jésus, à la fin de l'évangile de Luc, lorsqu'il regarde, il lève les yeux et qu'il voit ces riches mettre leur offrande dans le tronc, il voit cette pauvre veuve, il nous est dit, il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donner est crucial. Donner est essentiel. Et on le voit à plusieurs reprises, le Nouveau Testament insiste. Le Nouveau Testament insiste. On a notamment cette phrase dans le livre des Actes qui nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il est plus important de donner que de recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le don est une pratique essentielle pour notre foi. Et on le voit notamment dans Matthieu 6, au deuxième chapitre du Sermon sur la montagne, lorsque Jésus enseigne sur les pratiques religieuses, il va enseigner sur la prière, il va enseigner sur le don, et il va enseigner sur le jeûne. Et donc on voit bien que donner est l'une des pratiques religieuses que Jésus met en avant. Alors il le met en avant en nous mettant en garde contre l'hypocrisie. Et je vais aller plus loin, nous avons été créés pour donner. Alors vous pouvez noter, je ne le cite pas souvent, je vais citer un texte de Vatican II. Alors le début, on peut un peu débattre, l'homme seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, mais il écrit plus tard, ne peut pleinement se trouver, donc en parlant de l'être humain, ne peut pleinement se trouver lui-même que dans le don sincère de lui-même. Nous avons été créés pour donner, parce que lorsque je donne, je reflète l'image de mon Créateur. Dieu donne. Dieu donne la vie. Dieu a donné son Fils unique. Dieu nous donne sa grâce. Constamment, Dieu nous donne. Et donc, comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous aussi, nous ne sommes nous-mêmes que lorsque nous donnons. Et donc, en donnant, la veuve obéit à Dieu, obéit au prophète. Elle met sa foi dans ses déclarations en Dieu, mais surtout, elle entre dans le projet de Dieu. Et le premier pas pour participer au projet divin, pour participer à l'œuvre de Dieu, c'est de donner. Et moi j'aime bien cette expression, même si on ne la retrouve pas dans la Bible, de donner sa vie à Jésus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière. Même si notre vie, in fine, ne nous appartient pas. Mais l'idée de se donner à Dieu. Je peux me donner à Dieu parce que Dieu s'est donné pour moi. Et donc, qu'est-ce que ce récit, qu'est-ce que cette veuve à Sarepta nous apprend pour notre vie de foi? Tout d'abord, elle nous apprend que si par sa grâce, Dieu a choisi une veuve étrangère qui n'a rien pour son œuvre, à combien plus forte raison ne nous a-t-il pas choisi, nous, pour qui il a donné son Fils unique? À combien plus forte raison ne nous a-t-il pas choisi, nous, pour qui il a donné son Fils unique? Et c'est intéressant lorsqu'on prend ce dialogue de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4. Déjà, la première chose que Jésus lui demande, c'est « donne-moi à boire ». Exactement ce qu'Élie a demandé à cette veuve, à Sarepta. Mais la phrase suivante, lorsque elle le questionne, elle lui dit « mais tu es juif et tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner de l'eau ?» Jésus lui répond « si tu connaissais le don de Dieu et qui te demande à boire, c'est plutôt à moi que tu demanderais à boire. Lorsque nous connaissons le don de Dieu, lorsque nous comprenons ce que Dieu a vraiment donné, nous ne pouvons que donner. Nous ne pouvons que donner, mais aussi et surtout, nous pouvons tous prendre part à l'œuvre de Dieu. Et là, je veux m'adresser vraiment à tout le monde, du plus petit au plus âgé de notre communauté, de la personne avec le moins de ressources à la personne avec le plus de ressources, de celui ou de celle qui sourit le plus à celle ou celui qui est le plus triste, nous pouvons tous participer à l'œuvre de Dieu. Nous avons tous une place et surtout, nous pouvons tous donner. Et je veux le dire en particulier parce qu'on l'entend plusieurs fois, il n'est jamais trop tard pour donner. Oui, vous savez, moi j'ai déjà trop donné. Non, on n'a jamais trop donné parce qu'on n'a jamais donné autant que Dieu. Et surtout, c'est toujours le moment de donner. Et ensuite, donner fait partie de notre nature. Il n'y a qu'en donnant, ou il y a en donnant, nous exprimons ce pourquoi nous avons été créés. Tu as été créé pour donner. Et donc tous ceux à qui on dit « c'est plus le temps de donner », tu es trop malade, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu as trop peu, tu as trop. Non, nous pouvons tous donner parce que nous avons été faits à l'image de Dieu et que Dieu donne sans arrêt, sans cesse. Je veux terminer par la prière. Seigneur, je veux invoquer ton esprit au milieu de nous, te prier que viens renouveler nos pensées, viens renouveler notre intelligence et surtout change notre perspective. Seigneur, il n'est jamais trop tard pour participer à ton œuvre, il n'est jamais trop tard pour prier, il n'est jamais trop tard pour donner. Et que tu puisses vraiment susciter dans nos cœurs ce don joyeux. Que nous puissions tout d'abord nous donner à toi, mais également les uns aux autres, et qu'on puisse donner l'un à l'autre. Amen.